j'ai dû dire un mot pour sauver son chignon, pour sauver son chignon. Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur, du fond de ma torpeur. Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur, en quatre m'ont fait peur. Quand pire qu'une brosse, elle eût été tondue, elle eût été tondue. J'ai dit c'est malheureux, ces accroche-cœurs perdus, ces accroche-cœurs perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière, je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma boutonnière. En me voyant partir, arborant mon toupet, arborant mon toupet, tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect, m'ont pris pour un suspect. Comme de la patrie, je ne mérite guère, je ne mérite guère. J'ai pas la croix d'honneur, j'ai pas la croix de guerre, j'ai pas la croix de guerre. Et je n'en souffre pas avec trop de rigueur, avec trop de rigueur. J'ai ma rosette à moi, c'est un accroche-cœur, c'est un accroche.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4 FM, sur les ondes et en ligne. La radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. La voix de la Fédération anarchiste, dans l'émission, on a déjà traité le sujet d'Adoc, l'association des cinéastes documentaristes. Dans le studio aujourd'hui, Anne Galland. Bonjour Anne.
Bonjour.
Et moi-même, Samia Djedaï, et à la technique, Mélanie Trachler. Aujourd'hui, pour cette émission, nous avons choisi d'inviter Hélène Ricaume pour son film « Mélanie, faire corps ». Bonjour Hélène.
Bonjour Samia.
Et Lionel Retornaz pour son film « Hors de soi, une reconquête de l'espace public ». Bonjour Lionel.
Bonjour.
Deux films dont les titres parlants nous emmènent dans la mise en œuvre théâtrale, dans le travail sur soi qui s'inscrit dans un travail collectif. Le point commun à vos deux films, un projet théâtral qui regroupe amateurs et professionnels. C'est aussi une expérience passionnante de filmer ces ateliers pour la personne qui filme. C'est aussi une expérience immersive. Avec vous, nous allons échanger pendant une heure et demie sur vos choix de réalisation et sur le travail d'élaboration, de construction de vos films. Hélène est à mes côtés. Et donc Hélène est une artiste associée au Centre d'études en sciences sociales du religieux, le CESOR, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Et doctorante au laboratoire d'anthropologie politique en culture visuelle et cinéma. Tu as aussi été formée au cinéma documentaire aux ateliers Varan et à l'atelier documentaire de la FEMIS.
Oui.
Tu travailles depuis plusieurs années entre sciences humaines et cinéma documentaire. Ton univers visuel s'inspire du temps où tu as été assistante à la mise en scène, électricienne, régisseuse lumière dans le spectacle vivant. Tes films explorent les chemins complexes et sensibles de l'élaboration d'une individualité, les déterminismes qui l'empêchent, les inspirations qui peuvent la libérer. Tu fais souvent appel à l'imaginaire et au monde des arts pour éclairer le réel. On peut dire aussi que tu partages par le prisme du cinéma ce que nous apporte émotionnellement le spectacle vivant. La MC93, désireuse de garder trace de la création hors norme mise en scène par Nicolas Bigard sur une adaptation du texte de Karl Kraus, invite la réalisatrice à suivre les derniers jours de répétition en 2017. Là, on parle en fait du contexte de réalisation de ton film.
Oui.
Nicolas Bigard met en scène ce texte pour la deuxième fois avec des artistes professionnels et 60 amateurs. Les derniers jours de l'humanité, œuvre de Karl Kraus qui dénonce violemment les horreurs et aberrations de la guerre 14-18. Quelques années plus tard, apparaît un film, témoin du regard de la réalisatrice, toi, Hélène, happée par la personnalité de Mélanie Schmitt, qui n'a pas pu être avec nous dans le studio,
malheureusement,
dont le portrait au milieu du groupe dessine avec justesse cette expérience théâtrale intense. Pour résumer le film, qui est un court-métrage qui dure 36 minutes et qui a été réalisé en quelle année ?
Alors le tournage a eu lieu entre 2017 et 2018. Ensuite, il y a eu un premier temps de montage pour une recherche de financement. Et puis, il y a eu un temps suspendu. Et le montage s'est fini en 2021 pendant le Covid.
D'accord. Donc nous sommes en 2017, pendant les répétitions des derniers jours de l'humanité, sur le plateau de la MC93. Mélanie, ton personnage, doit composer une fresque orgiaque avec des dizaines d'autres comédiens amateurs qui participent comme elle à cette adaptation monumentale. Mélanie bouge maladroitement, les corps se cherchent, les peaux se touchent. Au fil des répétitions, Mélanie va explorer une autre perception d'elle-même. Et pour s'immerger dans ce film, on va écouter un premier extrait, tout de suite.
Respirez, essayez de peu à peu défaire les tensions. Vous devez toujours gérer votre respiration de manière à ce que vous ne fassiez pas mal et que les tensions puissent se démachiner. Ok, et dansez. Voilà, respire plutôt. Là, c'est pris de fou rire, donc ça tend. Respirez, là, les deux du centre. Oui, laisse-toi faire par ton fou rire. C'est bon, on y va. Ok, super. Est-ce que vous avez des questions ou des choses à dire, même comme ça, en termes de... Oui. Ah, pourquoi tu prends les positions ? Bonne question ! Pourquoi est-ce que je me fais du mal, moi ? Allô ? Tu peux tout à fait avoir que le haut qui bouge, ou tu peux tout à fait avoir les bras, ou tu peux tout à fait avoir que la tête.
Sur les gens, en fait, sur les personnes qui sont à côté de moi. J'ai peur de mettre ce poids-là, en fait.
C'est pour ça. Et ben voilà, t'es tendue parce que t'as peur de mettre ton poids sur les gens. Non, mais c'est vrai, et c'est bien de le savoir. Parce que du coup, à mon avis, il faut que tu te déstresses de ça. Mmh. Déjà. Et comme tu as cette appréhension, c'est super mignon de ta part parce que voilà, de l'avoir, de penser. Mais pour le coup, aussi, il faut que tu te rassures. Et pour te rassurer, je pense que tu aurais intérêt, toi, à avoir vraiment les deux jambes sur ton bassin, c'est-à-dire vraiment bien comme ça. Parce que du coup, tu peux mettre ton poids, mais tu peux aussi soit plus appuyer, soit moins. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas tes genoux qui vont morfler pour le coup. Parce que tu vas être centré. Ouais, voilà.
C'est ça.
Mon corps m'échappe assez souvent avec mes problèmes. Enfin, j'ai des petits problèmes de santé qui font que mon corps m'échappe souvent, mais enfin, il a pas envie de faire ce que j'ai envie qu'il fasse, quoi. Du coup, il se détache un peu de ma personnalité et il se dit bah tiens, si je faisais ça juste pour t'embêter, tiens, comme t'es pas d'accord avec moi, allez. Et du coup, voilà. Ma particularité fait que j'ai pas forcément, je vais pas dire ma place, mais peut entraîner des problèmes, en fait. Parce que bah, je gêne un peu, même si c'est pas vraiment gêné. Pour moi, je gêne, en fait, c'est une gêne. Et les gens m'ont tous dit, en fait, tu ne gênes pas, en fait. T'as ta place dans ton spectacle, y a même pas ça à dire, en fait. Et moi, je le dis parce que ce problème m'a fait partir beaucoup, m'a fait virer de beaucoup d'endroits, en fait. Donc, du coup, j'ai un peu cette idée de... On va me virer pour... Après, je sais que Nicolas, il n'y a aucun souci, il me connaît depuis 4-5 ans. J'abuse. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on se connaît. Et même lui, il m'a dit, t'as aucun souci à te faire là-dessus. On se connaît, tu me connais. Tu prends ta pause et puis c'est tout. Il n'y a aucun souci là-dessus, quoi.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4. Sur les ondes et en ligne, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. Dans l'émission, on a déjà traité le sujet d'Adoc. On vient d'écouter un extrait du film d'Hélène Ricaume qui est avec nous en studio. Dans cet extrait, il s'agit d'une répétition collective. Tous les participants du spectacle se tiennent par la main, ils sont alignés, Ils tanguent en jouant à déséquilibrer le poids de leur corps sur les uns et les autres. L'assistante du metteur en scène dirige l'exercice, puis s'adresse seule à seule à Mélanie. Et dans cet extrait, en fait, on rencontre donc ton personnage qui tient une grande place dans ton film. Et déjà, première question, comment l'as-tu rencontré? À quel moment tu t'es dit « je veux la mettre au cœur de mon film » Est-ce qu'elle a accepté? Et qu'est-ce que tu as entrevu qu'elle pouvait apporter au récit?
Donc déjà, ça m'émeut toujours de l'entendre, en fait. Je trouve qu'elle a une façon de parler d'elle, de parler de sa... À la fois de son malaise et à la fois de sa volonté toujours de participer au projet, qui est extrêmement touchante, et on le sent. Enfin, il y a quelque chose qui est toujours, voilà, qui m'émeut. Je pense que c'est cette émotion qui est au cœur du choix. Et alors le projet, je suis arrivée, les répétitions avaient déjà commencé. C'est la Maison de la Culture de Bobigny, la MC 93, qui m'a invitée à venir. Et du coup, au début, il n'y avait pas d'écriture, en fait. J'ai commencé à filmer les répétitions, donc c'est vraiment un projet gigantesque. Donc on a choisi assez rapidement déjà de me concentrer. Enfin, avec le metteur en scène, on a discuté et on a choisi le fait que je filme uniquement la dernière scène, mais je voulais faire un film choral au début, et puis j'ai pas eu assez de financement. Et durant le tournage, il s'est quand même passé quelque chose de très spécifique avec Mélanie, qui est une vraie rencontre émotionnelle, en fait. Il y a quelque chose, elle s'est livrée à moi sans aucun filtre. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait à chaque fois qu'il y avait des entretiens, qui étaient très troublants pour moi. Et il y avait aussi sa façon de bouger à l'intérieur du groupe, qui est très où on sent un malaise, et j'ai supposé que ce malaise allait évoluer forcément. Donc il y avait quelque chose de cet ordre-là aussi, de parier sur sa façon de s'intégrer plus au groupe. Et il y avait aussi une forme de miroir, parce que moi j'ai beaucoup travaillé dans le théâtre, et j'ai beaucoup été participé à des ateliers moi-même en tant que comédienne. Et je sais que le théâtre a eu une importance majeure, en fait, dans ma construction personnelle. Il y avait un rapport où ça donnait du sens à ma vie, en fait, de faire du théâtre. Et j'ai vu ça chez Mélanie. Je pense que c'est vraiment l'endroit le plus fort, c'est ça. Il y avait quelque chose que je partageais avec elle dans cette sensibilité-là, quoi.
Donc tu avais déjà entrevu, tu avais l'intuition de vouloir filmer en elle une transformation.
Tout à fait.
Une évolution, enfin l'impact du travail théâtral sur elle.
Du travail du corps dans ce collectif. Il y a vraiment la question de l'individu et du collectif dans le film. Et l'impact de sa... Savoir si elle aurait pu ne pas réussir à se lâcher, c'était pas un problème. Mais en fait, la façon dont elle, avec toutes les difficultés qu'elle pouvait exprimer, s'engageait... En fait, elle s'engageait quand même vraiment à corps perdu. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose de très beau dans son engagement, et c'est ça qui m'a plu. Et vraiment, et j'ai supposé effectivement qu'il allait y avoir une évolution. Et effectivement, elle se transforme.
Et tu as filmé pendant combien de temps?
Alors, j'ai commencé en 2017. Alors, il répétait, c'est comme ça, il répétait une fois par semaine. Alors, ça fait un peu longtemps. Mais je pense que j'ai filmé pendant une dizaine de week-ends. Et c'est un projet très long, hein, qui a été fait avec des habitants sur un an ou un an et demi. Donc, et à la fin, effectivement, ça s'est plus... resserré, intensifié pendant les dernières répétitions.
Et tu as filmé seule?
Oui, j'ai fait animer seule avec et j'ai pris le songe seule. J'étais quand même avec une jeune femme, Elisabeth Volting, qui venait avec moi, qui était en stage et qui m'accompagnait, qui m'aidait aussi, et avec qui ça s'est très bien passé. Elle était très importante aussi pour le tournage.
Alors, pour dialoguer avec ton film, on a choisi aussi d'inviter Lionel Retornaz. Et puis, Anne, tu peux présenter notre invité.
Alors, Lionel Retornaz, en fait, on s'est rencontrés il y a quelque temps à Lyon, au moment d'une réunion de la boucle documentaire, l'association à laquelle appartient Adoc, qui réunit 16 associations dans toute la France, associations de documentaristes. Donc déjà, cette première rencontre s'est faite dans un contexte très très riche et nous a fait nous rencontrer. Et tu m'avais déjà parlé à ce moment-là du film dont on va parler aujourd'hui, « Hors de soi, une reconquête de l'espace public ». Et depuis ce temps-là, j'avais dans l'idée effectivement de t'inviter, d'aller plus loin avec ce film que j'avais trouvé vraiment intéressant. Je vais te présenter brièvement ta bio est très riche et mouvementée. Je vais essayer peut-être de résumer un peu, mais en tout cas, donc tu vis toujours à Lyon, tu vis aujourd'hui à Lyon, quasiment là où tu es né, mais entre-temps, tu as pas mal voyagé et bourlingué. Et tu as commencé par te former en autodidacte au sein de la chaîne de cinéma TCM à Londres. Tu as été responsable de l'habillage, puis réalisateur-monteur. Et puis, en 2007, tu pars vers l'Amérique du Sud en itinérant. Tu suis des cours d'espagnol et de civilisation à l'université de Buenos Aires. En 2010, tu poursuis des études master documentaire de création à l'université Pompeu Fabra de Barcelone. Tu me corrigeras si je le prononce mal, certainement. Et tu commences à réaliser un premier essai documentaire en 2012, La craie et la plume, qui a été programmé dans une douzaine de festivals, dont le FID Marseille. Depuis 2013, tu enseignes, réalises et développes différents projets, courts-métrages expérimentaux, Kinetikos et Aluise, documentaire La Ruche. En 2015, tu suis la formation Les Fondamentaux de la production à l'USAS. Depuis 2014, tu es membre de l'équipe artistique de l'association Les Inattendus à Lyon, programmation du festival, mise en place d'ateliers de réalisation. En 2018, tu termines la réalisation de l'essai documentaire Équateur lointain intérieur. Et c'est en 2020 que tu termines un premier long métrage documentaire, le film dont nous allons parler aujourd'hui, Hors de soi, une reconquête de l'espace public. Et puis ensuite, tu vas avoir réalisé un autre projet que tu as fini en 2023, Gerland, un air de Brooklyn, mais ça, on n'en parlera pas, ou peut-être à la fin de l'émission. Moi, ce que je trouve vraiment déjà très, très parlant, c'est que tous les deux, toi Hélène et toi Lionel, vous êtes dans la recherche, vous êtes dans la formation, vous êtes dans le animer des ateliers, rencontrer des gens, et je pense que ça se sent dans vos deux films. Il y a vraiment cette quête-là qui ressort et qui nous a vraiment donné envie de rassembler vos deux démarches, même si vos deux films sont très différents, bien sûr. Donc, ce film, Hors de soi, une reconquête de l'espace public, je vais lire le résumé que toi, tu as mis sur ton site, Lionel, parce que je pense que c'est vraiment le meilleur qui soit. Que fait-on de nos colères intimes? Comment peuvent-elles rejoindre des colères collectives? Que peut-on inventer pour faire un nouveau corps et cœur dans la cité? Nous avons proposé à une quinzaine de participantes, artistes amateurs, militantes, associatives, personnes d'ici ou d'ailleurs, de prendre part au projet Laboratoire Théâtre Cinéma Hors de Soi. Donc, le ton est donné. Tu qualifies toi-même ce film
d'un documentaire hybride entre performance théâtrale, poésie et cinéma. Et pour en dire quelques mots de plus, dans ton film, tu vas suivre une série de résidences artistiques qui sont faites d'explorations somatiques, de discussions, de chants, de prises d'images et de performances éphémères dans l'espace public. Voilà, pour en avoir un petit avant-goût, on va écouter un premier extrait de ton film et on en parlera après.
Je pense que ça dépend des personnes, que chacun a des foyers de colère différents, qui se situent à des endroits différents. Moi, des fois, ça me prend à la gorge. C'est comme un étau qui m'en serre, qui me fait mal. Parce que porter la voix au monde, moi, c'est là mon bug, ma zone de crispation.
Bonjour et bienvenue à la radio. Bonjour et bienvenue. Bonjour.
La colère, elle passe beaucoup par mon cœur et par le sang. Je pense que mon cœur bat très très vite dès que je suis en colère et le sang, et je le sens bien. Et, tu vois, il circule vachement plus vite aussi.
Moi, je la vis beaucoup dans les mains et les bras, les poings fermés, les tensions dans les poignets, les avant-bras, les épaules, beaucoup le haut du corps, quoi, le torse, le buste, le ventre, le tripes assez contractées. Ouais, je dirais dans les tripes et dans les bras et les poings, les mains. C'est là, moi, je le ressens, je le vis, avec des décharges électriques, avec une intensité, les muscles tendus. Ces endroits-là.
Vous entendez? Avez-vous entendu parler?
Et puis au niveau du visage, il y a les mâchoires qui se contractent. Et aussi, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a les pommettes qui rougissent, quoi.
Désolé pour tout ce que t'as
sur Radio Libertaire 89.4 dans l'émission d'Adoc. On a déjà traité le sujet et on vient d'écouter un premier extrait du film de Lionel Retornaz, Hors de soi, une reconquête de l'espace public. Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est assez au début du film, c'est pas l'introduction, mais très vite on arrive à cette séquence qui donne tout de suite un aperçu de la richesse de ce travail, où on voit, lors d'une première résidence de travail théâtrale, les participants et les participantes qui s'expriment, vocalisent, vous l'avez entendu, font des sons, s'expriment aussi avec leur corps. On a des gros plans, des visages très expressifs. Et le montage nous met en parallèle des paroles off, qui déjà sont des retours sur expérience, qui sont déjà ce que ces participants ont analysé ou la façon dont ils parlent de cette colère qui est le thème du travail. Donc Lionel, tu es là avec nous et c'est vraiment très bien parce que tu vas pouvoir nous raconter comment vient l'idée de ce film, pourquoi ce thème, comment ça se met en place, la place de ce film dans ton parcours. Voilà.
Alors, donc le film Hors de soi, La reconquête de l'espace public est arrivé après, mais le film Hors de soi, en fait, il part d'une rencontre avec une comédienne et metteuse en scène qui s'appelle Élise Cagne, que j'ai rencontré en fait en faisant un autre film qui était un film de commande sur une MJC à Lyon. Et Élise, à ce moment-là, elle avait monté un projet qui s'appelait Les cœurs colériques. Et donc elle commençait à travailler avec un groupe qui écrivait des textes ou qui choisissait des chansons et qui s'adressait comme un cœur antique en fait à un public. Et c'était plutôt, en fait, dans le circuit des MJC, quoi. Ils faisaient une espèce de petit circuit avec ça. Et un jour, ils ont décidé de faire ça dehors, sur une place. Et un peu instinctivement, je suis allé filmer ça. Et je l'ai monté tout de suite dans la foulée. Et j'ai dit à Lise, je pense agrandir ça. On peut prendre ça et l'emmener en plus loin. Et du coup, je lui ai dit... J'ai pensé tout de suite à ce mot hors de soi. Je lui ai dit, à mon avis, c'est beaucoup plus polysémique que purement la colère. Et que hors de soi, c'était aussi sortir de son carcan social, sortir de soi. Je lui ai dit, comment on pourrait faire ça? Ça pourrait être des temps de résidence où on travaillerait vraiment en profondeur avec les participants, quelque chose qui pourrait ressembler à des cœurs colériques. Et puis après, voilà, en discutant, on est arrivé sur cette idée de vraiment faire des performances.
Et tu avais tout de suite l'idée d'un film.
Une fois que j'ai filmé en fait les cœurs colériques, enfin sur cette place, j'ai tout de suite eu envie, ouais, de
filmer. Mais filmer pouvait être un témoignage, une trace. Et là, en fait, tu pars dans la construction aussi d'un film.
Oui, c'est ça qui a été assez passionnant en fait dans cette collaboration. C'est que, oui, en fait, les résidences et tout ça, on les coécrit, en fait. Et du coup, même pendant que les résidences ont lieu, je filme, mais le soir, par exemple, ou même parfois à midi, je discute avec Élise, je lui dis, aujourd'hui, on a fait tel atelier, j'ai l'impression peut-être qu'il faudrait qu'on emmène les participants plus loin là-dessus, ou toute la première résidence, par exemple, était assez... classique, peut-être, était un peu, enfin assez douce, c'était à la MJC. Et en fait, quand les deux suivantes, on a été dans un autre lieu qui était un hangar avec des bus, avec tout
une espèce de tiers-lieu, oui.
Oui, c'est ça, un espace urbain, en fait, à l'intérieur de. Et à ce moment-là, je lui dis, ce serait intéressant qu'en fait, il y ait quelque chose qui déborde, qu'on pousse les personnes dans leur retranchement. En faisant attention quand même, mais que justement ce hors de soi se passe. Et c'est dans cette deuxième résidence, par exemple, qu'il y a une scène qui a lieu où il y a la chaise de la colère et il y a une participante qui monte sur une chaise et qui va vraiment exprimer sa colère et déborder, enfin, et qui va être débordée par sa propre colère adressée aux autres. Ça reste un exercice, mais on est à la limite de où on peut aller, je pense.
Donc, si je comprends bien, vous étiez deux, oui. Élise et toi, qui encadraient, qui animaient cet atelier. C'était votre idée. Mm-hmm. Et les participants, participantes, vous les avez informés, ils se sont inscrits, ils sont venus...
Alors, non, pas exactement, parce qu'on a vraiment... on a fait comme des permanences, en fait, pour rencontrer chacun des participants un par un. Donc, on essaie aussi de savoir qu'est-ce qui les intéressait. Donc, c'est déjà qu'on construit au départ. Et puis après, en fait, pendant les temps de résidence, donc il y a eu ces performances dans l'espace public qui n'étaient pas annoncées. Et les deux premières, on a proposé, nous, un thème et une trame. Mais l'idée, c'était vraiment que les participants s'en emparent. Donc en fait, il y a eu 5 performances et les trois dernières, ce sont les participants qui les proposent. Et donc il y a tout un tas de choses d'ailleurs qui sont pas dans le film aussi, où ils vont partir sur un thème et puis passer 2 heures à essayer de tirer quelque chose de ça. Voilà.
Ben, justement, j'ai oublié de préciser que dans cet extrait qu'on vient d'entendre, c'est un travail qui mène en atelier, mais juste après être sorti, et tu les as filmés, levant la tête vers des caméras de surveillance dans la rue. Bon, on n'en sait pas plus, il ne se passe pas grand-chose à ce moment-là, mais ça donne un ton. Ça donne effectivement tout de suite l'idée que y a une conscience politique, qu'il y a une envie de ne pas se laisser submerger sans rien faire, sans rien dire. Et du coup, on sent que tout ce travail qui est mené individuellement par chacun dans un collectif, il est aussi justement destiné à sortir dans la rue, à sortir dans l'espace public. Et du coup, tu racontes bien qu'effectivement, ça vient dans un deuxième temps. C'est quand même ça qui sous-tend tout le projet, quoi. Oui. Aller vers l'extérieur, aller vers les gens, aller... Et il y a des moments où il se passe des choses. Bon, on a un autre extrait qu'on écoutera un peu plus tard, où il y a vraiment carrément une intervention d'une femme qui est là. Bon, on en parlera après. Du coup, toi, tu filmais seul.
Oui.
Image et son.
Oui.
Voilà. Ce qui
est très compliqué, en fait, quand on filme un groupe.
Oui.
Donc, ça, c'est une anecdote que, pareil, j'avais pas anticipé. À un moment donné, je me suis dit, le son de ce film va être horrible. Enfin, ça va être un... puisque je suis pas juste une personne. Et en fait, la solution, elle s'est présentée, je l'ai vue se présenter devant moi, c'est-à-dire qu'en fait, surtout le tout début du travail, il y avait quand même beaucoup d'échanges et un peu l'idée d'un bâton de parole. Et en fait, j'en ai vu deux se passer le micro HF, et j'ai fait, c'est ça en fait ma solution. Et en fait, pendant tout le film, le micro HF devient le bâton de parole, donc au lieu de le planquer, en fait, je le laisse à la vue, ils le prennent, ils le posent à côté d'eux, ils le mettent à la bouche. Et jusqu'à là.
Oui, c'est même un micro-cravate, ouais. À un moment, ouais, un tout petit micro.
Oui, oui. Donc ouais. Ce micro-cravate, donc avec le chargeur et tout ça, devient le bâton de parole. Et jusqu'à la fin, je dois inventer un dispositif. Et la toute dernière partie du film, où en fait, il y a une espèce de pérégrination dans tous les lieux de pouvoir en fait, de Lyon. Ça, on y voit, c'est vraiment très court à la fin du film. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que là aussi, il y en a qui prennent la parole et tout ça. Et en fait, j'ai vu qu'à un moment donné, qu'ils commençaient à faire comme un espèce de truc très rituel, de se mettre comme un collier. Je me suis dit, en fait, le micro va être là. Et donc, à chacune des différentes séquences qu'ils faisaient dans cette pérégrination, ils se passaient un petit sac avec un collier, comme s'il se passait un bâton. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu avoir le son qui circulait aussi, qui prenait les choses un peu importantes. Du film. Ça dit aussi c'est quelque chose de nos films qui sont des films artisanaux très, très bricolés où on doit vraiment essayer de faire avec les bouts de chandelle. Et parfois, ça produit des choses assez intéressantes aussi.
Est-ce que toi aussi, Hélène, tu as inventé des choses pour le dispositif?
Je voulais juste rebondir aussi sur cette scène où, quand j'ai vu ton film, Lionel, c'est... je trouve que ça marche très bien, en fait, parce que ça intègre vraiment la question du film, du filmage à l'intérieur. On voit au fur et à mesure dans le film, je trouve que ta place, elle est vraiment, c'est ce que tu expliques, mais moi à ce moment-là, je me suis dit, tiens, il y a vraiment cette imbrication qui existe. Alors moi, c'est très différent parce que je suis arrivée dans c'est un centre national dramatique, il y a un gros, gros spectacle, alors je les connais très bien parce que j'ai travaillé à la MC 93 comme électricienne pendant 15 ans, et je connais Nicolas Bigard, donc il y avait une familiarité, mais j'ai pas du tout la même place, c'est-à-dire que je filme j'interviens pas dans les scènes, quoi. C'est vraiment quelque chose, mais par contre je me suis rapprochée de Mélanie, et moi mes solutions, ça a été plutôt au montage, on en parlait après, c'est-à-dire que j'ai travaillé pas mal le ralenti, mais c'est un ralenti qui est venu et qui donne, je trouve, hein, je pense que j'ai un rythme, une sensualité que je cherchais au tournage et qui n'était peut-être pas assez présent, palpable, perceptible, et du coup que la question du ralenti permet... il me semble de rentrer plus dans les scènes. Donc moi, mon truc, ça a été plutôt au montage.
Oui, puis la voix en off aussi.
Oui.
Ça permet ça. En fait, ça nous fait sortir d'un dispositif de captation, en fait.
Bien sûr.
Qui est un peu la question quand on fait ce genre de film sur le spectacle.
Tout
vivant.
À fait.
Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait sentir qu'il y a un regard et qu'on n'est pas juste en train de filmer ce qui est devant nous? Bon, après, moi, c'était un petit peu différent puisque je disais il y a une espèce d'écriture, de coécriture, donc ça se situe à un autre endroit. Mais moi, il y avait ce truc même par rapport à ce que tu disais d'être dedans, c'est-à-dire que souvent ils auraient voulu que je sois plus dedans encore. Ils auraient vraiment voulu que presque j'apparaisse à l'image. Et en fait, j'ai voulu rester à la lisière. Donc à un moment donné dans le film, il y a des adresses à moi qui où ils vont parler de la place de la caméra, par exemple.
Et moi, ce film, ça a été un film... Enfin, c'est un film très important pour moi parce que j'ai beaucoup réalisé de captations, justement. J'ai beaucoup travaillé dans les théâtres et pour les théâtres. Et donc, en fait, il fallait que je me déplace. Et c'était pas évident parce que... Et en fait, pour moi, ce film, c'est un vrai déplacement. Et d'ailleurs, dans le film, au début, je suis plutôt... devant avec une caméra posée, et puis au fur et à mesure du film je rentre de plus en plus jusqu'à la fin où je suis avec eux dans la fosse, et en fait il y a une trajectoire comme ça, je m'en suis pas rendu compte hein, sur le moment, c'est en voyant le film et je sais que maintenant j'ai envie de filmer des comédiennes sur un nouveau projet et que je veux vraiment être proche d'elles et rentrer et enfin voilà, rentrer toucher les peaux, enfin avec l'image, rentrer de plus en plus proche, et donc il y a cette évolution. Et ce film, pour moi, est important à cet endroit-là.
Bon, c'est fantastique. Vous avez, ça y est, commencé à discuter. Mais nous allons faire une petite pause musicale, puisque c'est la règle dans notre émission. Et nous vous proposons d'écouter une chanson qui s'appelle « La colère », chantée par La Canaille.
À se répandre, à fracasser le silence, elle sait comment se faire entendre. Elle me transit l'effroi, très vite je ne sens plus mes membres. Je tremble, confus, impossible de me détendre. Je m'abandonne dans les méandres de ses reflux. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même depuis notre entrevue. Je ne connaîtrai le repos qu'une fois son appétit revu. Enfin je cherche le repli, mais je n'essuie que des refus. À chaque fois qu'elle revient, c'est pour faire pencher la balance. Quand plus rien ne me retient, quand je subis son influence. La science de la furie, l'art de la guerre réveille tous mes démons. Si je l'écoute, si je coopère, mais si je la contiens, si je la domine, si j'en fais mon allié caché sous ma poitrine. C'est fou la force qui se dégage de ses remous quand elle est légitime et que l'agneau défie le loup. Elle attend son heure, tapis au plus profond de mon âme. Son visage se reflète dans chacune de mes larmes. Elle se nourrit de peine, de stress et de frustration et coagule lentement sous mon crâne jusqu'à l'éruption. Elle me talonne, s'imprègne de tout ce qui l'environne. C'est la patronne du côté sombre, jamais elle ne pardonne. La mémoire pleine, elle aime le goût de la revanche. Saisit les rênes de mes neurones, si par malheur ma raison flanche. Et plus je la refoule, plus je sens qu'elle devient folle. Me triture l'encéphale pour enfin prendre la parole. Et là, plus rien n'est drôle, non plus rien ne paraît frivole. Elle ouvre la gueule et plus personne ne rigole. Au grand jour et donne le change de ses sévices. Elle coupe court au long discours et tord le cou de l'injustice. C'est la bête noire qui veut la tête du tortionnaire. Ce plat qui se mange froid, cette hache que je déterre.
Sur Radio Libertaire 89.4, sur les ondes et en ligne. Dans l'émission, on a déjà traité le sujet. Après avoir écouté La Canaille qui chantait la colère, nous poursuivons nos échanges avec Hélène Ricaume et Lionel Retornaz. Tout à l'heure, ils nous parlaient du dispositif qu'ils avaient mis en place dans leurs films respectifs. Et aussi du fait qu'ils filmaient seuls et que leur place de filmeur, filmeuse évoluait au fil de la réalisation du film. Hélène, nous allons écouter un deuxième extrait de ton film pour évoquer, comme tu le disais tout à l'heure, la question du dépassement de soi,
tout à
qui
fait.
Est au cœur du sujet de ton film et qui se pose pour ton personnage principal qui est Mélanie. Donc on va tout de suite écouter un extrait, comme ça on va pouvoir poursuivre la discussion.
Alors, voilà, l'image est vraiment une sorte de bacchanal.
C'est l'orgie.
C'est l'orgie, mais orgiaque, bacchanal, enfin bon, un truc complètement... vraiment, c'est les derniers instants, voilà, avant la fin, quoi. Donc... avec tout ce texte sur les auxiliaires féminins, sur effectivement, le sacrifice des femmes, sur il y a aussi tout ça, quoi. Sur le dernier geste finalement. Si vous dites vraiment, soit moi ça va être très dur pour moi d'avoir ce rythme de fou là pendant un, soit je la question de la nudité c'est très problématique et ça l'est pour tout le monde, même pour des comédiens professionnels. Ouais. On a pris le temps là, hein. On a pris le temps pour qu'ils comprennent bien pourquoi, comment on y arrive, comment bon, voilà.
Je pense que ça peut choquer parce qu'il y a une partie qui sera quand même dévêtue, l'autre qui restera vêtue du coup. Je pense que ça peut choquer parce qu'on s'y attend pas forcément à cette fin où ça ressemble un peu comme une. Enfin, moi quand j'ai vu la vidéo qu'on avait vue d'ailleurs juste ici, ça ressemblait en fait à une orgie. De l'extérieur, ça dépend en fait des personnes, je pense, des spectateurs qu'il y a. Moi, je sais que ma mère. Elle pourrait être choquée. Mon frère aussi, parce qu'ils sont très pudiques dans ces choses-là. Mon père aussi, d'ailleurs. Enfin, toute ma famille.
Toujours dans notre émission, on a déjà traité le sujet. On vient d'écouter un deuxième extrait du film d'Hélène Ricaume, qui est avec nous en studio. Et dans cet extrait, on entend Mélanie qui évoque la nudité. Qui va être montrée dans le spectacle et à laquelle elle est confrontée.
Oui, et dans l'extrait aussi, et on entend le metteur en scène, donc Nicolas Bigard, qui fait cette proposition donc à un groupe de 60 amateurs. Il a déjà, et on voit dans le film, en fait, un extrait de sa première mise en scène, où il a mis en scène des comédiens professionnels qui jouent cette dernière scène. En fait, c'est... Alors, le spectacle est associé, enfin le texte de Karl Kraus, c'est quand même associé à la guerre de 14-18 et la dernière scène, c'est vraiment un charnier. Mais en fait, c'est une chorégraphie, c'est une, y a un rapport esthétique très important et qui a du sens. Et en fait, ce que je trouve vraiment intéressant dans la proposition de Nicolas, c'est que, et d'ailleurs on en avait discuté plusieurs fois, c'est que pour lui, il voulait vraiment que les amateurs participent pleinement à la proposition esthétique qui soit, ben voilà, que ça soit, c'est une mise en scène. Il disait que c'est pas un atelier de pratique théâtrale, c'est vraiment un spectacle où on compose une fresque ensemble. Et donc il y avait cette dans la fresque cette proposition de nudité. Il l'a pas du tout. Enfin, Mélanie choisit d'ailleurs de ne pas être nue. C'est vraiment un choix ouvert. Et mais de nombreux amateurs ont décidé d'être torse nu, même des femmes. Et en fait, tout le travail a été quel est le sens en fait, pourquoi est-ce que je suis nu par rapport à l'image que ça donne? Est-ce que ça vaut le coup? Enfin, et en fait, je trouve ça très très fort parce que ça les met dans une position de choisir. Et puis et après cette expérience de toucher les peaux, d'être corps à corps pendant des heures entières, hein, enfin, quand ils ont répété, c'est une expérience extrêmement forte en fait dans le ressenti, même si quand on est en t-shirt, enfin, c'est le cas pour Mélanie. Et en fait, je pense que dans le récit du film, c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis vraiment rapprochée des corps et des peaux, mais dans le récit du film, ça provoque quelque chose d'un dépassement de soi. C'est ce qu'on... En reprenant le titre de ton film, Lionel, il est hors de soi. Enfin, je pense que dans Mélanie Faircor, la question de la nudité est vraiment centrale dans cette... est-ce que je vais réussir à le faire? D'ailleurs, elle le dit, dans sa famille, ils sont très pudiques. Il y a quelque chose où l'expérience théâtrale l'amène complètement ailleurs, dans l'inconnu, mais vraiment, en fait. Et ça existe parce qu'il y a le groupe, parce qu'ils sont très bien encadrés. Hein. Enfin, il y a vraiment un encadrement très délicat, ce qui est dans cette
proposition. Mais en même temps, moi je trouve que c'est toi qui réussis à faire ressortir cette question-là, parce que le metteur en scène, lui, bien sûr, il peut être délicat, il peut faire attention, mais son objectif, c'est sa pièce, c'est son spectacle, c'est que ça rende quelque chose pour un public. Je pense pas qu'il aille vraiment, enfin, même s'il y a de la délicatesse, c'est pas lui qui fait ce travail psychologique avec les comédiennes et comédiens.
Non, il y a un accompagnement quand même de la chorégraphe, parce qu'il y a, oui, une chorégraphe qui, elle, est plus proche. Mais c'est vrai que sur 60 amateurs, j'étais beaucoup plus accompagnante, effectivement, sur la sensibilité et savoir ce que chacun, enfin, notamment Mélanie, c'était, puisque c'est mon film. Mais si j'insistais là-dessus, c'était aussi pour... parce que je trouve que ces propositions esthétiques dans un théâtre public, il y a vraiment une volonté politique aussi, et qu'on en a besoin en ce moment particulièrement. Enfin, c'est aussi pour ça, c'est-à-dire que ce dépassement qui ne va pas de soi, où on va trouver l'autre dans une nudité, dans une forme que la vie quotidienne et que l'environnement nous amène jamais, et comment ça fait sens. Et comment ça... Et en fait, c'est tout cet enjeu politique, en fait, qui, moi, m'a ancré et a ancré mon regard aussi quand j'ai filmé Mélanie et quand j'ai filmé les corps. Enfin, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce lien entre son intimité à elle, sa sensibilité à elle, et cette fresque énorme dans ce lieu qui est un théâtre public subventionné. Qu'est-ce que ça signifie dans une banlieue? Qu'est-ce que ça signifie à cet endroit-là? Il y avait et donc ça a été présent pour moi aussi assez fortement et d'ailleurs Mélanie c'est dommage qu'elle soit pas là pour le raconter elle-même, mais en fait cette expérience a été tellement fondatrice. Quand elle a commencé les répétitions, elle avait arrêté les études, elle était aide dans une cantine, et à la fin de l'expérience, elle a repris les études, elle a fait une licence de théâtre, et qu'elle a eue, et maintenant elle travaille dans une maison de quartier, et elle est accompagnatrice, elle accompagne des familles dans des événements culturels. Donc c'est pas, voilà, il y a une action... profonde en fait, vraiment dans ce film là. Enfin, ça son déplacement est très fort en fait.
Quelqu'un m'avait parlé de d'infra-politique, peut-être, enfin de quelque chose qui peut se passer dans un groupe et qui du coup va infusé aussi au-delà, enfin donc pour la personne, mais aussi au-delà. Et c'était un peu quand même ce qu'on avait envie de faire. Et dans les personnes qui ont participé au projet Hors de Soi, il y avait pas mal de gens qui étaient en transition dans leur vie, enfin différents types de transitions, mais vraiment des choses assez fortes. Il y a deux des filles qui participaient qui sont parties vivre en camion. Alors, elles avaient déjà ce genre de désir, mais c'est vraiment été un point comme ça où les choses ont convergé en fait pour pas mal des participants et débloqué des choses aussi qui enfin, vraiment voilà des ou un passage vraiment à un militantisme beaucoup plus actif ou enfin voilà il y avait et c'est ce qu'on avait un peu rêvé, c'est-à-dire et ce qu'on peut espérer quand on fait ce genre de projet, c'est des expériences transformatrices en fait.
Oui, tout à fait.
C'est ce qu'on enfin moi c'est ce qu'un peu ce que je revendique dans mon travail aussi, c'est que en fait on fait pas de l'animation, on n'est pas en train d'occuper les gens en fait, on est donc vraiment en train de vivre quelque chose avec eux et on se transforme nous-mêmes en même temps que se transforme. Enfin,
justement, on peut peut-être écouter un deuxième extrait de ton film, Lionel, où on va avoir une petite idée de ce que tu viens de débaucher.
Par quoi je peux commencer? Je peux peut-être vous dire deux mots de la stratégie. Pourquoi est-ce que ces assos font des actions? Déjà, toutes les assos ne font pas des actions de désobéissance civile. C'est assez particulier à alternative.
Comment tu définis la désobéissance civile?
Ouais, ok. Peut-être je peux partir là. Non, au contraire, ça m'aide de poser des questions parce que la désobéissance civile, c'est l'idée de faire le choix conscient et volontaire de désobéir à une ou des lois pour les dénoncer tout en respectant le cadre global légal. Après, ce que je trouve intéressant par rapport à ce qu'on fait, c'est que ça pose un peu la question de la limite. Enfin, jusque quand on peut se permettre de déranger, de faire irruption dans l'espace public, d'enfreindre des lois, et à partir de quand, d'une certaine manière, ça devient pas bien. C'est vraiment une question morale, quoi. À partir de quand c'est trop Et c'est tout l'enjeu et toute la difficulté de ce genre d'action. Est-ce que, je sais pas, est-ce que faucher des champs de maïs, détruire des récoltes parce que c'est des OGM, c'est trop ou pas? Est-ce que balancer du faux sang à la tronche de lobbies pharmaceutiques qui veulent empêcher la diffusion de médicaments contre le sida, c'est violent ou c'est pas bien ou c'est trop? Est-ce que se menotter au sac d'un mec qui travaille dans le pétrole pour l'empêcher d'aller à une conférence, c'est trop? Est-ce que marcher dans la rue, juste en faisant rien, en dérangeant personne, en suivant le parcours prévu par la police, c'est trop ou au contraire pas assez?
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. Dans l'émission d'Adoc, on a déjà traité le sujet. Et nous venons d'écouter un deuxième extrait du film de Lionel Retornaz, qui, donc vous avez entendu, qui parle de cette notion de désobéissance civique. Et donc c'est un moment où tout le groupe, c'est au moment d'une deuxième résidence, je crois.
Non, on est encore dans la première.
Vous êtes encore dans la première. C'est donc le début du travail. Mmh. Et donc on a tout le groupe des participants qui est assis et avec cette parole. Donc ça doit être elle, Élise.
Non, c'est pas
même pas elle. Ah oui, d'accord.
C'est Juliette, donc
qui
est une militante du coup ANV COP21, enfin voilà, écologie un peu radicale.
Voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans l'idée aussi qu'on avait du groupe, c'est qu'on voulait un groupe un petit peu hétérogène qui était à la fois des militants associatifs, des gens peut-être qui avaient fait un tout petit peu de théâtre amateur. On a aussi un jeune réfugié que j'avais rencontré à ce moment-là et qui j'ai proposé de participer. Et l'idée aussi, c'est que quelque chose circule entre eux. Et donc, qu'il y ait une forme d'éducation populaire et de transmission aussi de certaines notions. Encore une fois, l'idée, c'était pas d'insuffler quelque chose totalement de notre côté, mais plutôt de créer aussi les conditions pour que des choses existent, en fait.
Parce que, vraiment, à la différence du film d'Hélène, c'est pas une mise en scène sur laquelle le groupe va travailler. Il n'y a pas de pièce qui existe. Il n'y a pas un travail d'adaptation ou de mise en scène. C'est tout à inventer. Alors, par contre, le but n'est pas non plus de faire une représentation dans une salle ou même une représentation qui va tourner. C'est vraiment sortir dans l'espace public et s'exprimer à partir de tout ce qui a été travaillé, l'exprimer dans la rue pour le public des gens qu'on croise dans la rue.
Oui.
Y a quelque chose à voir avec le théâtre d'intervention.
Oui, alors après, je pense qu'on était traversé, peut-être Élise plus que moi, par pas mal de références, etc. Je pense aussi de, voilà, de pas mal de choses qui se sont passées dans les années 70, sur le fait d'occuper l'espace public. Mais oui, alors après, on, quand même, malgré tout, dans la plupart des choses qu'on a proposées, c'était des choses très, très douces quand même. Enfin, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de choses vraiment de l'ordre des obéissances civiles dont elle parle. C'est-à-dire, on ne s'est jamais attaché à une banque. En fait, on avait plus l'idée de déplacer très légèrement quelque chose et de voir ce que ça faisait. Et notamment aussi pour les personnes, qu'est-ce que ça faisait de d'être à cet endroit-là qui n'est pas l'endroit où on est habituellement dans la vie tous les jours, ou d'être à l'endroit où on est d'habitude, mais différemment. Et donc, du coup, parfois, ça provoque... des choses qui paraissent vraiment disproportionnées par rapport à ce que nous, on est venu faire. Mais ça dit quelque chose de la société aussi, de contrôle dans laquelle on se trouve. Je crois que c'est peut-être dans le prochain extrait qu'on verra après. Oui. Il y a justement toute une séquence qui se met en branle qu'on n'avait pas vraiment prévue à partir d'une chose assez anodine qui était vraiment de venir essuyer le sol avec des petits chiffons. Et on est dans une galerie commerciale en fait, à ciel ouvert. Et chacun vient soit essuyer le sol, soit même j'avais trouvé ça assez drôle d'aller essuyer les prix. On est dans un endroit qui est en fait complètement déjà aseptisé et on vient rajouter à ça. Mais c'était quand même surtout, enfin moi c'était la performance que j'avais proposée. C'était surtout de questionner en fait ces endroits qui sont on prétend encore que c'est public, mais en fait c'est privatisé. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on va dans un espace comme ça? Qui est en fait une galerie marchande à ciel ouvert, et qu'on ne respecte pas, en fait, finalement, ce qu'on est censé y faire, c'est-à-dire venir consommer, et qu'on fait juste autre chose, simplement. Voilà.
Là, moi, je trouve que tu nous mets l'envie d'entendre cet extrait. On n'est pas obligé de suivre notre conducteur, parce que vraiment, tu l'as bien annoncé, donc ça serait l'extrait, je crois, 8.
Ah ben oui. C'est vraiment ça. Alors, même l'arbre là, c'est ça. Ah là 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 là. Ouh. Ah oui, c'est ça, là, vraiment. Tu nous aides pas là, il faut venir nous aider. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Comment je nettoie?
Ça me paraît assez efficace.
Ah oui. Ah ben, vous savez, je suis dans la fonction publique. Alors ça, je le sais, ça. Je suis efficace dans le travail. Ah ouais.
Bonjour. Vous avez une autorisation filmée?
Non.
Bon, alors vous arrêtez.
Je n'ai pas reçu.
Vous êtes sur un lieu. Vous arrêtez s'il vous plaît. Vous êtes sur un lieu privé, vous arrêtez de filmer, vous n'avez pas d'autorisation.
On a le droit de filmer ici.
Non, vous êtes
pourquoi
sur.
Pourquoi? Ah ben appelez les flics, vous êtes flics.
Alors, madame, je suis pour l'instant assez...
Mais oui, mais appelez les policiers, parce que les gens, c'est une liberté, là. Là, c'est libre.
Non, vous êtes sur un espace privé, madame. Donc, je suis pour libre.
1, 2, 3, 4. Un bruit monte. Il ressemble à celui qui partout accompagne un homme
c'est pas... non.
Qui peine. Un bruit, est-ce là? Un bruit monte. Il ressemble à celui qui partout accompagne un homme qui peine. Et ceci, est-ce là? Un bruit monte. Il ressemble à celui qui partout accompagne un homme qui peine.
Oui.
Est-ce ici? Est-ce là?
Vous arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Je vous ai demandé gentiment d'arrêter de filmer.
Radio Libertaire 89.4, dans l'émission d'Adoc. On a déjà traité le sujet et on vient d'écouter un troisième extrait du film de Lionel Retornaz, dont il nous avait présenté le contexte. C'est, moi, je trouve ce moment-là complètement magique. Effectivement, ils sont dans une action qui n'est peut-être pas de la désobéissance civile, mais qui est quand même une action d'intervention choquante, enfin, qui va provoquer quelque chose. Ils sont en train de nettoyer tout, les vitrines, la rue, le sol. Ils sont un peu éparpillés dans cet espace. Et tout d'un coup, une femme se mêle à eux. Et évidemment, c'est la première fois qu'on la voit dans le film. Donc, moi, je me dis, tiens, c'est une nouvelle stagiaire. Enfin, Et puis non, c'est une femme de la rue qui s'est mêlée à leur... qui ça a parlé et qui s'est mise à improviser avec eux et qui a une présence extraordinaire et qui est là au moment où un vigile ou quelqu'un vient te dire d'arrêter de filmer, espace public, espace privé, on est vraiment dans cette question terrible. Elle va défendre le fait que c'est plutôt autorisé, enfin voilà. Et à ce moment-là, le groupe se rejoint, fait bloc et se met à chanter, psalmodier, rapper, enfin comment on peut appeler ça, ce texte qu'on les a vu et entendu répéter dans l'impro et dans le travail pendant des moments, des longs moments avant. Et tout d'un coup, ça prend son sens. Ce texte-là, ce moment-là. Donc, je ne sais pas si c'était prévu que ça se termine comme ça, ou si c'est vraiment de l'impro aussi qui...
Alors, on avait presque quand même scénarisé ce qui allait se passer. C'est-à-dire, c'est arrivé, et le fait de commencer à occuper l'espace... et que ça allait provoquer quelque chose. Moi, j'étais à 80% sûr, en fait, que je serais la première cible. Et les autres ne me croyaient pas. J'ai dit, c'est moi qui ai la caméra, ils vont venir vers moi. Parce qu'en fait, c'est la preuve aussi qu'ils font leur travail ou pas. Donc, en fait, c'est vraiment... Donc, j'aurais dit, en fait, il va se passer. Donc, c'est certainement autour du moment où ils vont venir intervenir sur la caméra... qu'il faudrait lancer ce scandé, en fait, ce texte. Mais est arrivée cette dame qui s'appelle Suzette, avec qui on a pu échanger un petit peu après, et qui, effectivement, en fait, est complètement investie par ce qu'elle voit. Et en fait, parce que, en fait, on fait un geste qui est son geste de tous les jours. C'est qu'en fait, c'est une femme de ménage, et elle nous voit, en gros, faire le ménage. Et donc, au début, c'est plutôt ludique. Elle nous voit faire ça, et ça l'amuse, et puis elle s'adresse à moi, etc. Et effectivement, quand c'est interrompu, elle ne comprend pas. Et ce qui est drôle, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a une certaine masse corporelle et une certaine puissance, et qu'à un moment donné, elle embarque carrément le vigile. Le vigile s'est mis devant moi pour m'empêcher de filmer, et elle vient et l'embarque physiquement. Et ça, c'est assez incroyable. Et pour dire quand même, en fait, quand même le décalage entre ce qu'on est venu y faire et ce que ça a provoqué, il y a eu d'abord l'arrivée des vigiles, mais ensuite, ils avaient appelé la BAC. Donc, quand on est parti, il y avait la BAC qui était en train d'arriver. Donc, on s'est quand même dit, c'est quand même assez énorme.
Et elle a eu des ennuis ?
Non.
Elle ne s'est pas fait interpeller et...
Non, parce qu'après, il y a eu quand même un moment un peu de médiation après derrière. Mais... c'était assez puissant ce moment.
Et c'est vrai qu'après on les retrouve à débriefer ce moment-là, parce qu'il y a toujours un besoin de prendre du recul et de faire le point de on a vécu quelque chose, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le...
Un des enjeux du film, c'était aussi que malgré tout il y avait quelque chose d'assez répétitif. C'est-à-dire, on prépare une performance, on fait la performance et on débriefe sur la performance. Donc, j'ai pas mal réfléchi, notamment au niveau du montage aussi, à quand est-ce qu'on met le débrief, quand est-ce qu'on ne met pas le débrief, et dans quel sens on met les choses aussi pour que finalement, ça reste relativement agréable à regarder, quoi. Ça ne devienne pas une espèce de cours sur comment on ferait une performance, quoi.
Et toi, Hélène, justement, tu as aussi ces deux temps. On voit Mélanie qui participe, On la voit dans sa relation avec le metteur en scène, les autres comédiens, comédiennes, l'assistante, nous, la, comment tu as dit, oui.
Oui, oui, la chorégraphe.
La chorégraphe, oui. Voilà, qui est la plus proche, qui comprend effectivement, qui avec plus. Laquelle il y a des discussions vraiment très intéressantes qui donnent à comprendre quand elle s'adresse, quand Mélanie s'adresse à cette femme. Mon corps me gêne, enfin voilà, c'est très fort parce que ça permet de nous le dire à nous. Mais toi, de ton côté, tu as aussi organisé des moments où tu vas filmer Mélanie de face.
Oui.
Face caméra, plan fixe, des moments de parole.
Mmh. Oui, oui, tout à fait.
À quel moment tu décides de ce dispositif-là aussi ?
En fait, assez vite, puisque comme je disais, moi je suis arrivée, les répétitions avaient déjà commencé, et en fait j'ai proposé des séries d'entretiens à beaucoup de participants. Moi, c'est pas... donc en fait, la façon la plus simple pour les rencontrer et la plus rapide, en fait, enfin la plus pratique aussi par rapport à l'espace, enfin c'est quelque chose qui s'est fait quand même assez vite. Et du coup, j'ai échangé avec une dizaine de participants. Mais celle qui était la plus, enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, celle avec qui il y a vraiment eu une relation immédiate en fait et sensible, et où là je me suis sentie, il y a vraiment eu quelque chose de, je sentais qu'elle était à cet endroit pour avec cette envie de transformer sa vie. Enfin, je l'ai, et voilà, et donc c'est pour ça que j'ai ensuite continué à la filmer, elle. Mais au début, le dispositif, c'était des rencontres, c'était surtout pour les rencontrer tous. Et ensuite, ça s'est transformé et j'ai changé de lieu, puisque la première fois, elle est sous un fond gris, ça c'est, et ensuite sous un fond noir. Et je trouvais que c'était intéressant, cette question du portrait, en fait, puisque... Enfin, quand,
et en fait, tu l'as repris plusieurs fois.
Oui. Oui, oui, plusieurs fois, l'intérieur. Oui. Une fois que j'ai compris que cette relation serait centrale dans le film, pendant le tournage, je veux dire, je me suis dit, voilà, il y a cette évolution qui est importante pour moi dans la construction dramaturgique. Et donc, j'ai proposé à Mélanie, je crois qu'il y a trois entretiens assez longs, où elle explique ce qu'elle ressent. Et le dernier, il est en off, puisque c'est à la dernière scène dans la fresque, en fait, où là, on ne la voit plus face caméra. Mais c'est vrai que dans le montage, je me suis posé la question de savoir si j'allais laisser en off. Et ensuite, le choix, effectivement, du portrait, enfin, d'assumer esthétiquement, en fait, de faire son portrait, à la fois dans l'image, un cadre fixe qui racontait ça, qui racontait son évolution, qui racontait, elle aussi, de rentrer directement en contact avec elle. Ce qui a été important pendant le montage, parce que, comme je disais, comme je suis arrivée comme ça, je savais pas vraiment que c'était elle que j'allais accompagner, et donc en fait le fait de la voir comme ça en plan fixe et en portrait, ça permet dans le montage de savoir que c'est elle qu'on accompagne. Enfin, il y a eu des choix de montage qui ont été faits aussi parce que c'était cette façon-là qui était la plus lisible ensuite pour le spectateur. Enfin, il fallait, voilà.
J'allais dire, c'est intéressant, c'est aussi ce qu'on laisse en dehors du film, parce que tous les interviews que tu as fait, ça permet aussi que les autres se laissent filmer.
Tout à fait.
D'une façon
tout à fait.
En confiance.
Tout à fait. Si j'avais filmé qu'elle, elle n'aurait pas du tout été aussi sincère, ouverte. En fait, comme j'en filmais plein, elle ne se sentait pas avoir le regard et la caméra sur elle. Et ça a vraiment permis qu'elle prenne du plaisir à ce que je la filme, même à l'intérieur de la fresque, et qu'elle s'ouvre aussi lors des entretiens. C'est très juste, oui, parce que je filmais plusieurs et qu'elle ne se sentait pas choisie. Ça aurait été plus compliqué.
Et du coup, au moment où tu as fait ce choix au montage, comment elle a réagi ?
Eh ben, ça a été plein de discussions. Ça a été des vraies discussions avec le metteur en scène, avec le théâtre aussi, et puis avec elle, évidemment. Donc, ça s'est fait. Alors, elle voulait voir, et moi, je voulais pas. Je voulais lui montrer le film fini. Donc, il y a eu plein de rendez-vous qui ont eu lieu jusqu'au jour où je lui ai montré le film avec d'autres personnes et où elle a accepté que le film, parce qu'elle est vraiment très présente et puis que c'est pas forcément facile. Donc, son acceptation, évidemment, était... sine qua non à la diffusion du film et ça a été un vrai accompagnement de continuer à discuter et tout ça, mais je continue à la voir et à discuter aussi de ce que le film a pu aussi parce qu'il y a eu l'expérience théâtrale, mais l'expérience théâtrale a été continuée par l'expérience du film et lui a permis d'asseoir aussi autre chose. Alors je vais pas parler à sa place parce qu'elle est pas là, mais en fait il y a une vraie continuité. Elle a vécu deux expériences et cette expérience du film a été importante aussi. Je le sais. Enfin, il y a quelque chose. Mais oui, ça a été une vraie. Il a fallu que ce choix de montage qui apparaissait, qui semblait évident dans le film, soit évidemment accepté par Mélanie et le metteur en scène et le théâtre.
Peut-être qu'on peut écouter un extrait pour entendre sa voix, justement.
Ben justement, on avait choisi un moment où c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc c'est l'extrait 7, extrait 3, Mélanie.
Si quelqu'un va tomber, on a très bien vu, tout le monde le retient en fait. C'est ce que j'ai vu plusieurs fois, quelqu'un a failli tomber, hop, il y avait plusieurs mains qui se sont mises et là je me suis dit, même si le jour du spectacle ça arrive, c'est beau en fait de voir ça aussi, qu'on retient la personne, qu'on a l'instinct de le faire quoi. C'est pas quelque chose qu'on demande, pardon je vais tomber, excusez-moi, aidez-moi, c'est pas la même chose. Donc j'ai encore ces problèmes avec ces appuis en fait, parce que je sais pas comment tomber par exemple pour pas faire mal, parce que s'il y a des corps partout, comment on tombe? Est-ce qu'on écrase les autres ou on essaie de se frayer un petit chemin entre les petits espaces qu'il y a en essayant de ne pas avoir la tête écrasée comme une... je ne sais pas comme quoi, mais c'est juste ça que j'appréhende, en fait. Moi, après, le corps, je laisse faire, en fait. Je laisse vraiment... mon corps, il fait ce qu'il veut. Ma tête, elle est avec les autres. Mon corps, il est avec ce que les autres font. Et je tomberai comme je tomberai. Hein.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, sur les ondes et en ligne, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. Dans l'émission, on a déjà traité le sujet d'Adoc. On est toujours avec Lionel Retornaz et Hélène Ricaume, et Anne aussi. Hélène nous parlait de sa relation avec son personnage, Mélanie. On vient d'écouter un extrait de son film. Et je voulais poser la question un peu plus générale des écueils à éviter lorsqu'on décide de filmer le spectacle vivant.
On en a un petit peu parlé tout à l'heure sur et c'est vrai que, alors je sais pas toi où tu en es Lionel, mais moi c'est vrai que, alors mon expérience d'électricienne de théâtre a fait que j'ai vécu et vu la scène toujours depuis les coulisses ou sur les passerelles en fait, et donc ça j'ai une expérience aussi de regarder la scène sur les côtés et sur des points qui sont pas les points du spectateur frontal, et ça c'est je pense que c'est une direction qui moi m'intéresse beaucoup, et puis c'est cette rentrée dans avec la caméra, en étant proche des comédiens, du jeu et des regards, des peaux, des attitudes, donner une autre matière que celle qui est d'une caméra qui est dans la salle, en fait. Hein. Je pense que c'est vraiment à cet endroit-là que le cinéma raconte autre chose, permet de rentrer dans une autre perception, une autre dimension en fait. Donc c'est pas, enfin voilà, moi c'est pas, j'en suis là, je ça va certainement évoluer. Et qu'est-ce que tu en penses, Lionel?
Ben, je suis assez d'accord sur la question de les questions des échelles en fait, les échelles de plan en fait, c'est ça qui distingue vraiment quelque chose qui serait de l'ordre de la captation d'un film qui est fait sur et qui est aussi fait avec les participants, etc. C'est souvent cette question de à quelle distance sont les films, est-ce que nous on bouge aussi. Moi je sais que là, dans le film il y avait vraiment des moments où je me mets à danser en fait autour du groupe qui fait quelque chose, et du coup c'est forcément, c'est différent d'une caméra fixe, et j'ai essayé un maximum, et je crois que c'est ça aussi qui peut distinguer, c'est de pas être un peu planqué dans un coin avec mon zoom et en train de voilà, j'essaie de m'engager aussi physiquement, puisque j'aurais proposé aussi de s'engager de manière forte. Je me dis, ben même si moi j'apparais pas à l'écran, c'est peut-être important quand même que physiquement je sente tout ça et que je m'y expose aussi en fait.
Oui, puis avec du coup des focales plus courtes, enfin quelque chose qui fait que la matière de l'image n'est pas la même. Moi, je suis vraiment d'accord. Il y a cette puis même assumer des hors-champs, enfin des voix, ce que ton film propose vraiment. Enfin, j'ai beaucoup apprécié beaucoup de séquences où on perçoit juste un mouvement, où la caméra bouge, où le son est très présent et où on perçoit pas forcément bien l'espace. Ce qui est le principe de la captation, de vraiment sécuriser avec un plan large, puis des plans serrés, machin, et de sortir de ce langage-là pour fractionner l'espace et s'amuser et puis le raconter autrement. Enfin,
Alors, moi, en tout cas, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était cette caméra un peu performative. Mm-mm. Et c'est intéressant parce qu'en plus, j'ai rencontré Élise donc sur un autre film qui était juste un film sur une MJC, et où je me suis dit, c'est une commande, et en même temps, j'ai pas envie de faire juste la commande. Et du coup, j'avais déjà commencé, et j'ai décidé de me mettre une contrainte qui était de mettre juste un 50 mm. Et du coup, je me retrouvais à devoir être très proche des personnes, et pas pareil, de pas pouvoir me planquer, quoi. Donc, ça a un peu commencé à ce moment-là, en fait, ce jeu aussi, avec certaines, enfin, dont Élise, que j'ai filmé comme ça, quoi, qui me disait, ah, t'es quand même assez proche, là.
Et pour rebondir sur ce que tu racontais de Mélanie, qui a une deuxième expérience après l'expérience de théâtre, l'expérience du film, qu'est-ce qu'il en est pour tous les participants de ces ateliers théâtre, cinéma? Est-ce qu'ensuite, ils ont accompagné les projections du film?
Alors, certaines, une en particulier... qui est devenue une amie, qui est peut-être sur les 10 projections, elle était présente à 5 ou 6, et qui me disait que elle comprenait quelque chose à chaque fois qu'elle venait, en fait, et qu'elle en parlait. Elle avait, en fait, c'était vraiment par curiosité. Et c'est vrai qu'elle avait une position, en fait, elle m'avait demandé, elle faisait un DU d'art et. Alors, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, mais en gros, elle m'a demandé d'être un peu son maître de stage, en fait. Et moi, j'avais dit, mais d'accord, mais tu ne pourras pas être à l'extérieur, hein, tu vas être dedans, tout ça. Donc, du coup, je pense qu'elle a eu besoin de le regarder pas mal pour découvrir. Et après, ce qui est assez beau pour moi, c'est quand les projets donnent quelque chose derrière, en fait, qui deviennent, qui se transforment. Et Élise et Céline, qui étaient une des participantes, ont poursuivi avec un projet qui s'appelle Mu, qui est un projet au départ plutôt de femmes, mais du coup qui est devenu aussi sur les questions de genre, et donc qui est un projet en non-mixité, et qui reprend un peu le principe de ces temps de résidence et de performance. Voilà, donc il y a eu des choses comme ça qui sont passées, qui sont transformées. Enfin, moi, c'est ce que je trouve le plus beau quand... quand on a initié quelque chose et qu'en fait ça continue.
Et du côté cinéma, t'as pas eu des stagiaires ou des des personnes qui sont allées plus du côté caméra ou technique cinéma?
Non, pas forcément, pas forcément. Après, on pourra discuter aussi de où vont ces films. Ça, c'est aussi une autre question.
C'était vraiment une question qu'on allait poser. Ouais.
Parce que je ne sais pas, toi, ce qu'on t'a pu t'en dire, mais c'est vrai qu'on fait tout pour sortir du spectacle vivant, enfin, dans la manière dont on fait les choses. Et moi, j'ai senti souvent d'être renvoyé à ça. Ce n'est pas vraiment un documentaire, en fait. C'est un atelier, c'est un film... c'est un film sur un spectacle, c'est... Et en fait, il faut vraiment que les gens soient très attentifs, j'ai l'impression, pour passer ça.
Mais ça, c'est quelque chose qui est... Dès qu'on parle de théâtre, alors... Donc, filmer le théâtre, c'est récurrent, en fait. Moi, et de faire... de réussir à proposer un film qui soit perçu comme... On parle de la transformation d'une personne, en fait, ou de l'expérience, c'est des vraies expériences de vie. Et c'est catégorisé comme théâtre. Et ça, c'est historique. Je pense qu'il y a vraiment un rapport entre le théâtre et le cinéma qu'il y a une c'est un peu enfin les metteurs en scène oui deux mondes et puis une histoire aussi enfin les metteurs en scène souvent ont envie de faire du cinéma enfin c'est deux mondes qui enfin en tout cas dans les têtes des diffuseurs c'est pour résumer à ça c'est très catégorisé de toute façon c'est soit spectacle vivant soit documentaire mais en fait comment on fait sentir enfin cette que c'est une expérience de vie en fait et c'est ça qui est intéressant finalement à questionner par l'acte cinématographique comment en tant que réalisateur on arrive à trouver un langage d'image pour convaincre encore plus les personnes qui regardent et qui perçoivent que c'est une expérience de vie, en fait. C'est un peu le challenge. Parce que moi, c'est pareil. Enfin, le film, il est reçu comme un film de théâtre. Enfin, c'est...
Je pense en plus, enfin, peut-être pour en mettre un autre truc, c'est que si en plus on ne fait pas le portrait d'un metteur en scène ou de quelqu'un un peu de connu et du coup ce serait ça qui serait intéressant on est vraiment y a vraiment ce truc de l'atelier en fait et c'est pour ça que moi ça me fait penser aussi au, enfin, j'ai l'impression que tu as aussi cette pratique là de faire des films d'atelier avec des participants et tout ça d'arriver à dire bah, en fait c'est des vrais films c'est pas juste un moment d'atelier en fait et ça c'est vraiment un enjeu je trouve d'arriver à ça.
En fait, surtout, c'est que dès le départ, c'est des films qui sont pas dans les clous de la production classique qui va chercher un diffuseur pour avoir le moyen d'avoir un producteur. Et du coup, dès que t'as pas démarré comme ça, tu te retrouves dans des circuits parallèles qui peuvent être très vivants. Hein. Les films peuvent beaucoup circuler, être vus. Mais sinon, c'est quand même un vrai blocage au départ. Du coup, vous en avez un petit peu parlé, mais...
Ouais, où peut-on les voir, justement?
Où peut-on les voir? Et puis, voilà, vous les avez produits. Toi, je vois qu'il y a les inattendus qui sont au générique, et puis des donateurs, des participants à...
Ça a été hébergé par donc, l'association Les Inattendus. Ouais. Après, c'est un micro budget... qui est principalement un financement participatif. En plus, on a poussé le truc jusqu'à ce que en fait, l'activité soit gratuite, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de discrimination en fait, dans le groupe, que des gens ne puissent pas participer. Donc, on leur a proposé, en fonction de ce qu'ils estimaient, de pouvoir participer. Donc...
c'est trop révolutionnaire.
Il y a tout ça. Alors, le film, pour répondre à la question la plus simple, il est disponible sur Ciné Mutin, qui est la plateforme des Mutins de Pangée. Donc c'est un des endroits pour le voir. Et après, en termes de circulation, c'est vrai que c'est un film hybride qui a été dans des endroits plutôt hybrides. Il a été, je crois, dans un seul cinéma qui est le Vidéodrome 2
à Marseille.
Voilà.
Ah oui.
Et pour Mélanie Faircor, il est sur la scène numérique de la Maison de la Culture de Bobigny. Ils ont sur le site, en fait, ils ont une scène numérique et ils ont plusieurs courts-métrages et il est visible gratuitement sur ce site-là, ce qui est très bien parce que ça permet à la fois de communiquer avec les publics. Enfin, voilà, c'est une place. Et puis, pareil, il a circulé dans des endroits hybrides. Et qui ont toujours, avec des discussions toujours passionnantes, c'est quand même des films qui sont... Enfin voilà, tous les débats, et Mélanie était présente à chaque fois, et c'était vraiment des moments à chaque fois très...
C'est assez...
émouvant.
C'est assez intimiste, je trouve. Ces films amènent quelque chose, puisqu'on parle d'une parole intime, amènent aussi, de la part du public, quelque chose d'assez intimiste, en fait... Il y a vraiment une fois, je me souviens, on l'a montré, il y avait 8 ou 10 personnes, mais c'était une des meilleures projections. Parce qu'en fait, littéralement, on l'a montré dans cette salle qui était une espèce de tiers-lieu. Et en fait, dans la même salle, après, on a dîné avec les gens qui étaient là. Et du coup, la discussion a duré 3 heures. Enfin, c'était. C'est sûr que ce n'est pas le dispositif habituel, mais c'est aussi là où c'est assez passionnant de les accompagner, quoi.
Eh ben, merci beaucoup pour
merci à vous.
Cet échange qui a été vraiment riche. Notre émission va se terminer. Nous allons vous quitter en musique avec une chanson de la Grande Sophie, qui est encore une fois sur le thème de la colère, ma colère. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Le premier dimanche d'août, non ? On n'a pas d'émission ? On ne sait pas encore.
Bon, peut-être dimanche 4 août.
Peut-être. Et sinon, bon été et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Moi j'entends la colère, des talons au temporal, résonne le tonnerre, et le temps, 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 et plus qu'un certain. Du haut de ma montgolfière, quand monte ma colère, se gonfle mes poumons. Parole en l'air, et le temps, 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 les étouffes le lendemain. Combien de jours, combien de mois, combien de soupirs, combien de mots, combien de fois ne plus savoir que dire, combien de lettres, combien d'espoir à entretenir. Tiens. Sous ma boule à facettes, quand danse ma colère, de sombres paillettes militent sur mes paupières. Et le temps, 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 lui ça l'air tient. Au bout de mes doigts s'agite ma colère, s'écrase à tout va, les mots comme des pierres. Que le temps, 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 déguise sans fin. Combien de jours, combien de mois, combien de soupirs, combien de mots, combien de fois ne plus savoir que dire. Personne ne retient.
ma colère. Fais-en ce que tu voudras, laisse-la mourir, fais la taire. Il est temps, 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 il est temps.
Ah ben il n'y a pas de générique, j'attendais la petite musique du générique pour causer par-dessus, j'avais tout prévu puis il n'y a pas. Bon ben très bien, et ben écoutez, le mélange va commencer à 16h58, bientôt 59 ici même sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération Anarchiste, Michel Polizzi, avec vous jusqu'à 18h30 à peu près. Et, normalement il n'y a rien de prévu après, donc on verra bien comment les choses se passeront. Le numéro de téléphone du studio, le 01 43 71 89 40. Et on va commencer par le très célébré Adagietto de la 5e symphonie de Gustav Mahler. Gustav Mahler qui a un anniversaire aujourd'hui même, le 7 juillet, né en 1860, quelque part en Autriche. Et on va écouter ça dans une version où Eliyahu Inbal dirige l'orchestre symphonique de la radio de Francfort. Donc l'Adagietto de la 5e symphonie de Gustav Mahler.